Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue RTL Midi. Deux heures d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Michel Platini a quitté. Le feu toujours pas maîtrisé dans le Gard. Et puis au Japon, le choc après la mort de Shinzo Abe. L'ancien Premier ministre n'a pas survécu après l'attaque dont il a été la cible la nuit dernière.
Nos deux focus du jour, on fera le point précisément sur ce méga feu dans le Gard. Et à 12h50, notre rendez-vous sur le Tour de France RTL chez vous et Christophe Paco qui est au départ de cette 7e étape à Tomblaine.
Notre question du jour sur RTL.fr, allez-vous privilégier la voiture pour vous rendre sur votre lieu de vacances? Les vacances scolaires ont débuté hier, vous dites oui à 70%, non à 15%. Notre météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Toujours du vent dans le sud et ça, ce n'est pas rassurant sur le front des incendies.
Toutes les mauvaises conditions sont réunies, pas une goutte d'eau, un soleil de plomb, du vent, Mistral dans la vallée du Rhône à 60 km/h en pointe. Pareil pour la Tramontane en Roussillon. Du soleil de toute façon sur tout le territoire cet après-midi. Un petit peu de nébulosité sur les Pyrénées et ça pourrait même aller jusqu'à l'averse sur la montagne Corse d'ici la fin de la journée. Les températures, on a un bon 24 degrés attendu à Abbeville cet après-midi, 26 à Brest, 27 à Paris et Nancy, 30 à Grenoble, 32 degrés à Bastia et 35 degrés à Montpellier.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc le soulagement de Michel Platini. Après 6 ans d'enquête et 2 semaines de procès pour escroquerie en Suisse, le voilà acquitté.
Je vis depuis 7 ans dans une forme d'injustice. J'ai essayé d'expliquer depuis le début tout ce qui s'était passé, toute la vérité. La justice suisse aujourd'hui, que je remercie, et surtout la présidente, m'a donné raison. Mais c'est 7 ans de calomnie, 7 ans de beaucoup de choses. C'était pas très agréable. Mais voilà, aujourd'hui, je retrouve le sourire que j'ai jamais perdu parce que c'est que de l'injustice et rien d'autre.
C'était un complot ?
Bien sûr que c'est un complot depuis le début. Ils m'ont traité de corrupteur, de blanchisseur d'argent, de falsificateur. Donc la suite, on verra comment ça se passera. On a le temps, on va réfléchir, mais je l'espère rien passer.
Michel Platini au micro RTL de Jean Le Chemier, Jean qu'on retrouve sur place en Suisse. Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, est lui aussi acquitté. C'est finalement un succès sur toute la ligne pour la défense.
Michel Platini était arrivé souriant et en avance au tribunal pénal fédéral, sans un mot pour la presse, à la différence de son ex-mentor Sepp Blatter, qui se disait confiant de l'emporter. Et ils ont eu raison, la présidente du tribunal lave les deux hommes de toutes les accusations qui pesaient sur eux. « Je suis en vie », a lâché Sepp Blatter à la sortie du tribunal, heureux à 86 ans de voir son nom blanchi des accusations de corruption.
Michel et moi, nous n'avons rien fait qui va contre le droit pénal suisse. Et ça, c'est important pour moi et ça me donne l'occasion maintenant aussi de croire à mon pays et à la justice de mon pays. Merci.
Un constat partagé par Michel Platini, soulagé mais aussi un peu amer d'avoir traîné cette affaire derrière lui comme un boulet depuis 7 ans. Le parquet suisse peut encore faire appel. Michel Platini préfère retenir qu'il a enfin obtenu un succès un 8 juillet, tout juste 40 ans après la demi-finale perdue de la France contre l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde.
Jean Le Chemier, le correspondant de RTL en Suisse.
L'autre grand titre de l'actualité, c'est cet incendie dans le Gard.
Premier méga-feu de l'été, déjà 630 hectares de forêt détruits. Les pompiers préviennent, il faudra sans doute plusieurs jours pour en venir à bout. Célestin Bougère, bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. Les habitants de Bordezac n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. Ils restent bloqués dans la commune voisine.
Oui, il reste plusieurs dizaines d'habitants de Bordezac coincés à Bessèges. Ils ont dormi pour la plupart dans leur voiture sur le bord de la route. Céline en fait partie. De là où elle est, elle aperçoit sur le massif d'en face un filet de fumée tout proche de sa maison.
Plus près, je pense que c'est ma maison qui brûle. Je suis partie, j'ai même pas pris mon sac à main, j'ai rien. Donc voilà, quoi, on attend qu'on puisse rentrer chez nous. De toute façon, il n'y a qu'à attendre. Hein. Quand ça nous arrive, on ne comprend pas en fait ce qui nous arrive. On est complètement impuissants, quoi.
Une attente qui commence à devenir longue. À quelques mètres, le poste de commandement des pompiers. Le sous-préfet d'Alès, Jean Rampon, constate une évolution positive de la situation.
On peut penser qu'en fin de journée, le confinement sera levé. Le feu est beaucoup moins virulent qu'il ne l'était hier. On a beaucoup moins de vent. Et progressivement, on arrive à contrôler le feu. Voilà. Sauf revirement important de la météo, le pronostic est plutôt encourageant.
Le sous-préfet souligne également que l'incendie est loin d'être terminé. Le feu sur certains secteurs continue de progresser à petite vitesse.
Célestin Bougère en direct de Bordezac dans le Gard pour RTL. Cet incendie intervient alors que les vacances scolaires ont débuté hier soir. Pas mal de monde dans les gares ce matin, notamment Gare de Lyon à Paris.
Je suis contente, je pars avec mes trois petits-enfants que j'attends là, donc tout va bien. Il y a des terrains de foot, des terrains de tennis, il y a du ping-pong, il y a voilà, la liberté pour eux, et puis moi je suis tranquille. 8 jours, ça se refuse pas quand même.
Je suis ravi de partir sur la montagne, j'adore la montagne. Je veux faire des marches tous les jours, hein. Ça c'est l'objectif. Hein. Chamonix, il y a de quoi randonner, c'est un des plus beaux coins, je pense, des Alpes. Hein.
Je pars à Genève, rejoindre une amie qui habite là-bas, et je pars dans l'optique de m'amuser pendant une semaine, profiter, sortir, aller au resto, boire des verres, m'amuser quoi. C'est prévu depuis 2 semaines sur un coup de tête, j'avais envie de bouger, et je lui ai dit bah, écoute, je peux venir, je suis jamais venue. Elle m'a dit oui, du coup voilà, me voilà en route.
Parole de vacanciers heureux ce matin, Gare de Lyon à Paris, au micro RTL de Léonard Cassette.
Dans les aéroports, a priori moins de perturbations que la semaine dernière.
Les salariés d'ADP, aéroports de Paris, ont voté la fin de la grève après avoir obtenu une revalorisation salariale plus 3%. Décision saluée ce matin par Clément Beaune, le nouveau ministre des Transports.
C'est une bonne nouvelle évidemment. Je me réjouis qu'il y ait, semble-t-il, des accords qui aient pu être trouvés, notamment chez les pompiers hier chez Aéroports de Paris, et des discussions qui se poursuivent en ce moment même. Mais le but est simple, c'est que les entreprises mènent le dialogue social avec les partenaires sociaux et qu'on ait des solutions, notamment au problème de pouvoir d'achat. Et moi, en tant que ministre des Transports, que dans le bon fonctionnement de tous nos services publics, on est un service de qualité.
Clément Beaune, le ministre des Transports. Alors certains petits chanceux sont déjà sur leur lieu de vacances. Bonjour Nicolas Bobby.
Bonjour.
On vous suit en fil rouge depuis ce matin sur RTL, dans les allées du camping municipal de Quiberon. Là, j'imagine, c'est l'heure de l'apéro ?
Absolument, c'est l'heure de l'apéro, mais vous savez, l'apéro au camping du Goviro, cela se mérite. Le petit bruit que vous entendez derrière moi, ce sont les sardines de la petite tente que les deux Louis, j'en ai deux pour le prix d'un, qui viennent d'Amiens, qui sont étudiants, sont en train de monter. Donc l'apéro, Louis, c'est avec modération.
Hein. Ah oui, mais la modération, on n'avait plus de place dans la tente, on n'a pas pu l'emmener. Hein.
Ah, vous voyez, ils ont de l'humour parce qu'ils sont en vacances. Comment vous allez les occuper, ces vacances ?
Bah écoutez, un petit peu d'apéro, du sport, on va aller marcher, la plage, avec le soleil, c'est impeccable.
Oui, parce que la plage, Amandine, elle est située à 100 mètres, 150 mètres. Ah, c'est à côté, hein.
Ouais, on est bien placé, on est juste à côté, donc c'est parfait, là. Tout pour passer de bonnes vacances.
Vous allez faire un petit barbecue, tout de même
Ah ouais, des petites grillades avec une petite bière, et voilà.
Hein. Ouais. Ah, la bière, bien sûr, avec modération, même s'il n'est pas là.
C'est présent, manifestement. Toujours.
Ah oui, oui.
Manifestement, avec modération, hein, quand même.
Avec monsieur modération, mais apparemment, il n'est pas sous la toile de tente. En tout cas, ils ont monté la tente.
Ils sont
assez
tout
rapidement.
Jeunes, manifestement.
Oui, ils sont assez jeunes. Quel âge vous avez ?
On a 20 ans.
Ah oui.
20 ans également.
Et les parents les laissent partir tranquillement ou ils vont rappeler leurs parents tous les soirs ?
Bah, écoutez, vous allez appeler vos parents tous les soirs, j'imagine.
Ça dépend. À quelle heure, ça dépend.
Dans 20 ans, quand même. Ouais, général, on donne des nouvelles à son papa et sa maman.
On donne des nouvelles, non ?
Ah oui. Il faut dire comment ça se passe les vacances quand même.
Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, Pascal, il n'y a pas d'heure pour se coucher, hein, je crois que c'est ça.
Ah non, il n'y a pas trop d'heure, non. Non, c'est... On est en vacances, on profite, la plage, un peu de bar le soir et puis...
Et puis les filles voilà. Peut-être, ou les garçons, je ne sais pas.
Des filles ou les garçons, je ne sais pas, me demande Pascal.
Oh, des filles, un peu de copines.
Voilà, un vent de liberté.
Puis, des rencontres.
Vent de liberté absolue avec ce camping municipal très familial qui est situé donc juste en face de la plage. Je vous garantis, j'ai pas du tout abusé de l'apéro. Hein, je l'ai pas pris.
Non.
Mais juste pour draguer, il va falloir parler un peu plus hein, pour vos jeunes gens. Hein. Il va falloir être un peu plus bavard parce que autrement.
Merci beaucoup Nicolas Bobby en direct de Quiberon. Attention aussi si vous prenez la route, hein, puisque on le rappelle, la journée d'aujourd'hui est classée orange. Ce sera rouge en Île-de-France et dans la vallée du Rhône. Demain, rouge partout et même noir pour la première fois de l'été en région Rhône-Alpes.
Au Japon, pardonnez-moi, la stupeur après la mort de Shinzo Abe.
L'ancien Premier ministre tué par balle cette nuit alors qu'il était en train de faire un discours. Philippe Dova, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, depuis ce matin, la ville de Nara s'est dramatiquement transformée en Dallas nippon et les Japonais comme Yume, commerçante à Tokyo, sont complètement sous le choc.
Beaucoup de personnes qui adoraient Monsieur Abe, mes amis, sont plutôt choqués psychologiquement. Il y en a aussi qui pleurent, ils ont du mal à travailler. Le Japon est un pays plutôt, la sécurité est plutôt grande. Enfin, il n'y a personne qui a pu empêcher ça. On est très choqués et on se demande qu'est-ce qu'a fait la sécurité en fait.
Une population traumatisée qui regarde en boucle les images de l'homme l'horreur où l'ancien Premier ministre s'effondre en plein discours électoral, puis gît à terre, inconscient, la chemise blanche maculée de sang, devant une foule de supporters complètement paniqués. Les vidéos montrent aussi l'assassin s'approchant et tirant deux coups de feu dans le dos de Shinzo Abe. Immédiatement arrêté, Yamagami Tsetsuya est un habitant de la ville de Nara, inconnu des services de police. Selon le ministère de la Défense, il aurait fait partie des forces d'autodéfense japonaise maritime de 2002 à 2005. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, son intention était bien d'assassiner Shinzo Abe.
Philippe Deval, le correspondant de RTL au Japon. Et à l'instant, Emmanuel Macron rend hommage à l'ancien Premier ministre japonais. Le Japon, écrit le président français, perd un grand Premier ministre. Le déficit commercial de la France atteint un nouveau record au mois de mai, 13,1 milliards d'euros. C'est du jamais vu. Conséquence de la flambée des prix des matières premières qu'on exporte, vous le savez, en grand nombre. Deux mauvais chiffres également sur le front du Covid. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
C'est simple, tous les indicateurs sont en hausse.
Oui, 110 000 cas en moyenne chaque jour, des taux d'incidence en augmentation dans toutes les régions et dans toutes les classes d'âge, avec une progression particulièrement marquée chez les 20-39 ans. 10% d'hospitalisation en plus, notamment des personnes âgées insuffisamment vaccinées. Et puis des entrées en réanimation qui franchissent la barre des 1000 patients. C'est dans ce contexte tendu que Santé publique France en appelle à la responsabilité de chacun. Julie Figoni, de la Direction des maladies infectieuses.
Il reste primordial d'appliquer à titre individuel les gestes barrières, dont le port du masque en présence de personnes fragiles, en cas de promiscuité dans les espaces fermés, notamment dans les transports ou lors de grands rassemblements. Également, le lavage des mains et l'aération fréquente des lieux clos restent très importants.
Et puis être conscient également qu'avoir été contaminé une fois n'empêche pas d'être à nouveau infecté. La semaine dernière, parmi la totalité des cas recensés, 12% étaient des réinfections.
Plus d'un sur 10. Merci à vous, Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL.
Dans une seconde, notre premier sujet, on fait le point sur le méga-feu dans le Gard.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est un sentiment vraiment de tristesse et de désarroi puisque la Cévenne brûle. Aujourd'hui, tout le canton, toutes ces communes sont vraiment bouleversées par ce qui arrive. C'est dramatique. C'est sûr que ce sera très, très long de s'en remettre. Ça va laisser des traces, et des traces visibles pour longtemps. On sent l'odeur, il y a toutes ces cendres qui volent.
Guylain Chassary est conseiller départemental du canton de Rousson dans le Gard. C'est là que le feu a pris hier soir. Plus de 600 hectares de forêt déjà détruits. On l'a entendu tout à l'heure, les autorités ne sont pas très optimistes. Bonjour Grégory Allion.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Où en est-on à 12h44 ?
Écoutez, je crois que les collègues gardois ont fait un travail remarquable. Vous savez, lorsque l'on a des situations telles que ce qu'ils connaissent, l'essentiel est de ne pas avoir de blessés graves et de ne pas avoir de victimes de ce type de sinistre. Je voudrais revenir quand même sur votre titre. Vous parlez de méga-feu. On ne considère pas ce feu comme étant un méga-feu.
Alors justement, j'entendais ce mot depuis hier et je voulais vous demander effectivement qu'est-ce qu'un méga-feu et est-ce qu'on est face à ça ?
Non, c'est un incendie de forêt, c'est un gros feu, c'est un feu qui est inquiétant parce que il est parti hier avec des conditions, je vais pas revenir sur les conditions, vos auditeurs comme vous savez exactement les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous avons toujours du vent sur zone, voire même dans les autres départements limitrophes. Pour autant, un méga-feu, c'est un feu dont l'intensité dépasse l'entendement, les vitesses de propagation dépassent l'entendement, les superficies dépassent l'entendement, c'est un feu qui devient presque incontrôlable. On n'en est pas là. Les autorités maîtrisent, le commandant des opérations de secours maîtrise, même si c'est un feu qui est très inquiétant parce que les conditions au moment où nous parlons sont toujours, désagréables pour les sapeurs-pompiers. Et les sapeurs-pompiers n'ont pas les conditions qui leur permettent de lutter pour l'éteindre efficacement.
Quand vous dites que les sapeurs-pompiers n'ont pas la possibilité, qu'est-ce que vous entendez exactement par cette phrase ?
Vous avez actuellement des conditions de sécheresse dans les Cévennes, dans tout le pourtour méditerranéen qui sont exceptionnelles. Je rappelle quand même que nous vivons des températures depuis le mois de mai qui dépassent les records historiques. Nous avons une sécheresse qui est récurrente d'année en année avec un déficit hydrique sur l'ensemble du pays, mais plus particulièrement sur le pourtour méditerranéen qui est exceptionnel. Nous avons des températures qui sont très élevées en cette période. Nous avons du vent qui est très important en ce moment même où l'on parle. Il y a des rafales à 60, 70, voire 80 km/h sur les Cévennes. Donc, ce qui veut dire que les conditions en ce moment ne sont pas propices à éteindre le feu. Ça veut dire qu'on a une situation qui est à ce stade un peu limitée à 500, 600 hectares. Il se pourrait que cet après-midi, on ait de nombreuses reprises. Et c'est une évidence même pour tous les sapeurs-pompiers qui m'entendent et qui comprennent exactement ce que je veux dire. Mais il faut comprendre que le feu n'est pas fixé dans son enveloppe à ce stade, compte tenu des conditions météo sur zone.
Grégory Allione, vous restez en direct avec nous. La ministre déléguée en charge des collectivités territoriales s'est rendue sur place et ce dès hier soir, on a pu la joindre il y a quelques minutes. Bonjour Caroline Cailleux.
Bonjour.
Vous êtes inquiète pour les prochaines heures, pour les prochains jours ?
Nous sommes en effet inquiets parce que la situation de cet incendie n'est pas maîtrisée. À la demande de Gérald Darmanin, j'y suis allée hier, cette nuit. Je me suis rendue dans le Gard pour témoigner à la fois du soutien plein et entier de l'État à la population et à nos pompiers qui luttent avec beaucoup de courage dans des conditions extrêmement difficiles contre le feu. Les élus continuent de faire preuve de réactivité en ouvrant, au moment où je vous parle, un centre d'hébergement ou encore sont en lien étroit avec les personnes les plus vulnérables. J'ai une pensée aussi pour les pilotes des Canadair. Il y en a deux qui ont recommencé à circuler ce matin à 6h15. Donc voilà, malheureusement, le feu n'est pas maîtrisé. Il y a du vent, il y a du mistral qui s'est relevé. Donc voilà.
Et cet incendie, Madame la Ministre, survient alors que les vacances scolaires ont débuté hier soir. Est-ce que vous lancez un appel aux vacanciers ?
Bien sûr, je voudrais lancer un appel pour prévenir les départs de feu, pour un appel à la vigilance et à la responsabilité de chacun pour respecter les consignes de sécurité et de prévention des incendies. Ne pas organiser des barbecues, jeter ses mégots dans un cendrier et non par terre, ne pas réaliser ses travaux de végétation sans avoir un extincteur à portée de main. Et puis, malheureusement, il y a un incendie, il y a quelques gestes simples. Donner l'alerte en appelant le 112, le 18 ou le 114. Il faut s'abriter dans un bâtiment et rester informé de la situation.
Dernière question, la préfète du Gard, vous l'avez annoncé, va prendre un arrêté pour interdire les feux d'artifice. Est-ce que ça va être le cas ou est-ce que vous souhaiteriez que ce soit le cas dans toutes les zones à risque, j'allais dire dans tout le sud ou le sud-est de la France ?
Je pense qu'évidemment, les préfets devront être extrêmement vigilants. Le sud de la France est très impacté et je pense que les préfets auront, j'imagine, la vigilance de prendre les mesures qui s'imposent.
Caroline Cailleux, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales. Grégory Allione, vous êtes toujours avec nous. Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, vous aussi, vous en appelez à la responsabilité de chacun. On voit qu'une négligence, ça peut être dramatique.
Oui, de toute façon, 90% des départs de feu sont liés à l'activité humaine et 70% d'entre eux sont liés à la négligence, l'imprudence, à l'accident. Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde doit être vigilant, les touristes, mais aussi, je dirais, les populations autochtones, parce que on sait très bien que la densité de population fait que le départ de feu peut être là. Ce que je veux dire aussi en tant que président des sapeurs-pompiers de France, c'est que c'est une situation sur laquelle on alerte. Alors le ministre Darmanin a déjà depuis longtemps intégré ces éléments-là, puisqu'il tente de renforcer dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur de nombreux moyens pour permettre aux sapeurs-pompiers, à la sécurité civile d'être dotés de moyens financiers, de moyens aériens supplémentaires. Mais je pense que notre pays est confronté à une réalité aujourd'hui. Le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, c'est pas 2030, c'est aujourd'hui. Et visiblement, ce que nous vivons cet été peut se reproduire très régulièrement dorénavant. Donc il faut une vraie prise de conscience de l'ensemble et surtout de nos populations pour premièrement ne pas mettre le feu et surtout avoir des comportements lorsque le feu est là pour éviter typiquement d'évacuer une maison. C'est inutile pour deux raisons, parce que la maison est un vrai abri face au feu et deuxièmement, lorsqu'on prend une voiture, on engorge le réseau routier, on empêche les secours d'arriver à proximité du chantier, du feu contre lequel il faut lutter.
Merci beaucoup Monsieur Allione, vous êtes président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Une pause et dans une seconde, notre rendez-vous Tour de France RTL chez vous avec Christophe Pacaud.
RTL Midi. Tour de France 2022.
RTL chez vous.
Christophe Pacaud.
Bonjour Christophe Pacaud.
Bonjour Amandine. Et vous bonjour êtes... Pascal. Bonjour à tous.
Et vous êtes aujourd'hui au départ de l'étape à tomber. pleine devant le stade où a débuté Michel Platini aux côtés d'un autre grand nom du sport français, Marie-Jo Pérec.
Athlétisme, football et vélo, va y avoir du sport juste après la rencontre avec Marie-José Pérec. Le point étape avec nos amis, nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, Christophe Bérard, le coup de cœur de Laurent Jalabert et vous ici à Tomblaine, juste avant dans quelques minutes de prendre le départ en direction de la super planche des belles filles sur les terres de Thibaut Pinot bien sûr et au pays du Munster, du Gruyère et de la Cancoyotte.
La Cancoyotte se peint mes bains franc-comtois tout en dansant la gare.
RTL, chez vous, Christophe Paco.
RTL, chez vous, avec, c'est presque une tradition maintenant, c'est un bonheur de retrouver la grande championne, l'athlète aux trois titres olympiques, double championne du monde, Marie-José Pérec, bonjour à vous.
Bonjour tout le monde.
Ce qui est génial avec vous, c'est qu'il y a toujours le sourire. Et en plus, là, vous êtes en pleine forme, je vous ai vu. Mais vous êtes dans un vraiment un état physique formidable. Vous avez fait du vélo, vous avancez plus, quoi.
Comment ça, j'avance plus? Ce matin, j'ai fait quand même 35 km de vélo. Et toi, tu dis que j'avance plus? Non, mais... Hey.
C'est dur, hein, ce...
Non, franchement, c'était une très belle expérience. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Mais franchement, avec la vieillesse, on est obligé de se mettre au vélo, hein, parce que les jambes ne suivent plus.
Yes. Non, mais on peut mettre un petit moteur, hein, en toute légalité, bien sûr.
J'ai prévu justement de m'acheter un petit vélo électrique. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille aux auditeurs qui veulent faire un peu de sport.
Le premier petit vélo de Marie-Jo, c'était où? C'était à la maison, en Guadeloupe?
C'était un petit dino. Et...
D'accord.
Et donc, je m'en souviens très bien. Il était tout blanc et un peu argenté. C'était une sensation de liberté, tout simplement. Moi, je suis sur le tour justement pour ça. Donc, nous, les champions, on vient, on distribue les vélos. Et je peux vous dire, moi, ça me donne la chair de poule. Mais moi, je sais que j'ai attendu longtemps pour avoir un vélo, le petit vélo dino. Et lorsqu'on regarde dans les yeux des enfants le bonheur, les sourires, on se dit, ben... On a fait quelque chose de magique, de bien pour eux.
Vous aimez l'ambiance du Tour de France? Cette caravane du Tour?
Ah, j'adore. C'est sûrement le plus bel événement, je pense, qu'on a en France. Hein, on peut le dire. Hein.
Merci Marie-Jo pour votre sourire, votre enthousiasme. Ce que vous faites pour ces enfants qui, grâce à Century 21, récupèrent des vélos pour les enfants défavorisés. On espère tous un jour voir un grand Bernard Hinault. Voilà. Merci à vous Marie-José.
Merci beaucoup.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Et dans quelques minutes, direction la super planche des belles filles. Nouveau grand haut sommet du Tour de France. Christophe Bérard, bonjour.
Bonjour Christophe.
Notre confrère du Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, c'est visiblement tout pour Pinot sur la route, au moins au niveau des inscriptions.
Alors sur la route, c'est Pinot, là, on est tous chez Pinot. Il suffira simplement de regarder les 7 km de montée de la planche des belles filles. C'est Pinot. Non, on est clairement sur les terres de Thibaut Pinot. En revanche, aujourd'hui, il est dans un rôle... On appelle ça d'ange gardien, de super équipier, de tout ce qu'on veut. Pour David Godu, un petit secret entre nous et vos auditeurs. Je pense que Thibaut Pinot, il a une envie de gagner une étape un peu plus tard. Disons-le encore une fois, savourons cette communion entre un champion et son public. Savourons.
Christophe Bérard, journée en bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, on l'espère.
Et en Thibaut.
Merci beaucoup, Christophe Bérard.
À bientôt.
RTL, chez vous.
Grand ciel bleu sur Tomblaine devant le stade Michel Platini, la légende du sport français justement. Hortense Crépin, bonjour à vous.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Ça y est, on est chez nous, la planche des belles filles, enfin coureur français tout devant.
Ah oui Christophe, je peux vous dire qu'ils y croient les supporters ici au départ dans le Grand Est et chacun a fait ses pronostics.
Pinot, il est dans son jardin et tout, donc normalement j'espère que Pinot va gagner l'étape, ça serait extraordinaire quoi. Allez Thibaut Pinot! Ça va comme ça?
C'est très bien. Oh. Et vous, monsieur, pareil?
C'est la Lorraine, il faut qu'il y ait un gagnant lorrain qui arrive à aboutir. Thibaut Pinot, par exemple, ou des gens comme ça.
Il y a Thibaut Pinot.
C'est quand même un coureur mythique maintenant.
Donc là, Thibaut Pinot, c'est quand même la star aujourd'hui. C'est le nom que j'entends le plus depuis tout à l'heure.
Bah oui, c'est la vedette.
Victoire française ou pas, la réponse cet après-midi. En tout cas, le favori chez les Français, c'est évidemment Thibaut Pinot, le local de l'étape.
Et rendez-vous, n'oubliez jamais, tous les matins, 8h45 avec Hortense Crépin pour le Tour d'Hortense.
RTL, chez vous.
Avec Michel-Édouard Leclerc, au départ de cette étape, ça y est, la montagne arrive et le plus beau des maillots, il est à vous Michel-Édouard.
Moi, j'aime beaucoup le maillot du grimpeur. C'est vraiment une très belle symbolique, quoi. Je faisais pas tellement de vélo dans la vie. Je suis plutôt un randonneur, un voileux. Je suis breton. Mais le maillot du grimpeur, ça m'a toujours fasciné. L'effort, il y a l'échappée, le passage du col, l'effort, la transpiration. Et puis après, la joie de cette libération quand on porte le maillot. Et tout. Moi, c'est un maillot mythique pour moi.
Et l'envie, pourquoi pas ce soir, de voir un Français avec ce maillot?
Ah, bah, j'espère bien.
Ah, il y a Thibaut Pinot qui est chez lui, en plus.
Il y a Thibaut Pinot qui il le mérite très bien. Je serais très fier de lui remettre.
Quand on vous interpelle aujourd'hui, on pense maillot et on pense aussi pouvoir d'achat automatiquement. C'est tellement d'actualité.
Oui, je pense que la mission que les gens attendent de Leclerc, je parle pour moi personnellement parce que j'incarne la marque, mais de l'enseigne, bah, c'est que justement, on soit un peu de leur côté, quoi. Je trouve que c'est normal que nous, entreprise grand public, bah, on doit se battre contre l'inflation.
Merci.
Merci beaucoup. Merci RTL.
RTL, chez vous, Christophe Paco.
Le coup de cœur de Laurent Jalabert. Et une image forte ce midi, Laurent, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai qu'il y a 2 ans, déjà, Roglic contre Pogacar.
Oui, l'image qui me reste, c'est Roglic en difficulté dans la montée de la planche des belles filles. Dans le dernier contre-la-montre, quand Pogacar le dépossède de ce maillot jaune, Roglic le casque en arrière, qui change de vélo, qui perd les pédales. Roglic et son histoire d'amour avec le Tour de France, je t'aime moi non plus, il vient là avec des ambitions, il vient pour gagner le Tour, et année après année, il se casse les dents et il retourne. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce garçon, parce qu'il n'a pas été très chanceux quand même dans sa carrière, et il mériterait tellement de gagner un Tour de France, lui qui a gagné 3 Tours des Espagne, qui a gagné tellement de courses importantes dans le calendrier. Voilà, j'espère que cette planche des belles filles, cette fois, va le propulser vers les hauteurs du classement. Il est loin, il a perdu du temps sur les pavés, mais il mérite mieux.
Quelle va être belle cette étape aujourd'hui sur RTL. Merci Laurent Jalabert. À ce soir.
À ce soir à 18h30, hein, Christophe.
Pour le club Jalabert. Voilà Amandine, voilà Pascal. En duplex ce midi de Tomblaine pour RTL chez vous.
À tout à l'heure, bien sûr, Christophe. Départ de cette 7e étape, on le redit, c'est à 13h15 et ce sera donc à vivre sur RTL avec Hortense Crépin sur la moto RTL.
RTL chez vous.